France Inter. .fr.
Bonjour. En ce vendredi consacré au jazz, comme le disait Laetitia Gaillet, vous le savez, je reçois le contrebassiste Claude Chamichian. Claude Chamichian est un personnage discret, de par son rôle sans doute. La contrebasse est cette assise à la voix grave, personnage rythmique et harmonique du groupe sur lequel on s'appuie. On se repose et pourtant, Claude Chamichian ne s'est jamais vraiment contenté d'être cette simple assise. Militant passionné de l'improvisation, voilà 30 ans qu'il tient la pulsation des scènes free, folkloriques, jazz et contemporaines de France et de Navarre. À la recherche plus ou moins consciente de ses racines depuis qu'il a glissé son instrument entre ses bras, il est allé jusqu'au bout de cette démarche dans son dernier album Trace, qui sort sur le label qu'il a fondé il y a 20 ans à Marseille, Émouvance. Un sextet composé de la fine fleur du jazz, François Corneloup et Daniel Erdmann au saxophone, au pluriel, Philippe Deschepère à la guitare, Christophe Marguet à la batterie et Géraldine Keller à la voix. Une enquête musicale sur ses racines arméniennes, en douceur et profondeur, une plongée dans un patrimoine affranchi de son folklore, éminemment moderne et sans un gramme de nostalgie. Bonjour Claude Chamichian.
Bonjour Elsa.
Alors, c'est vrai que vous êtes présent sur les scènes depuis la fin des années 80, en particulier celles qui mélangent le jazz. Je sais que le mot jazz, pour vous... Et presque galvaudé, vous avez envie qu'on s'en débarrasse un peu ?
Je ne sais pas si on peut dire qu'on s'en débarrasse, mais de toute façon, le mot jazz lui-même était déjà mis en question par des gens comme Charlie Mingus ou Duke Ellington. Duke Ellington disait qu'il préférait parler d'une musique afro-américaine par rapport à moi et par rapport à mes origines et là où j'ai grandi musicalement et culturellement. Je pense que je pourrais dire que ma musique, elle est afro-européenne, américano-européenne. Le jazz, oui, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est devenu tellement large, c'est en tout cas, c'était Franck Bergerot qui avait dit une chose très très bien sur certaines musiques qu'on écoute de Jazz Magazine, sur certaines musiques qu'on écoute des gens qui la font, bon, des gens comme moi ou la famille de musiciens à laquelle j'appartiens. On est des fois très embêté pour essayer de trouver une dénomination. On ne sait pas si c'est ça, si c'est ça autre chose. Par contre, ce qu'on sait, c'est que seuls les jazzmen peuvent faire cette musique de cette façon-là. Je pense que ça vient d'un rapport étroit à la mélodie, à une certaine manière d'investir le rythme, et aussi bien sûr à un rapport à l'improvisation, mais à l'improvisation comme une composition en temps réel. Nous n'en avons pas l'apanage, nous n'en avons pas non plus l'invention, les gens qui font du baroque le connaissent. Il y a des gens qui ont fait, comme par exemple le Gruppo di Improvisazione dans les années 70 en Italie, des choses magnifiques qui sont des gens qui viennent de la musique contemporaine. Bon, il y a une certaine manière d'appréhender la musique par rapport à son souffle, ce qu'elle dit, le rythme, et puis son inscription dans le temps. Parce que je pense que cette musique, elle est vraiment ancrée dans la période et l'époque. Elle est profondément parallèle à la réalité sociopolitique.
Alors, on va pouvoir parler de tout ça, mais je trouve très surprenant en vous écoutant là, parce qu'on écoute au loin un de vos morceaux en solo, où vous êtes à l'archet, à la contrebasse, et c'est très impressionnant de vous entendre parler sur votre propre son, comme s'il y avait deux voix presque semblables qui communiquaient. Vous avez la voix de votre contrebasse.
C'est gentil de me dire ça. En tout cas, la contrebasse, c'est un... Comment dire ? C'est l'instrument par lequel cette voix que j'ai, comme tout musicien, passe. Pourquoi j'ai choisi cet instrument ? C'est par rapport à ce qu'il amène, à sa tessiture, à ce que c'est. Le reste ne m'appartient pas, je crois.
On va pouvoir en parler. Alors, pour commencer, on va peut-être écouter un contrebassiste qui compte pour vous, Charles Mingus, vous en parliez à l'instant, qui contestait cette notion de qu'est-ce que... En tout cas, contestait, interrogeait cette question de qu'est-ce que le jazz. Avec les Fables of Phobos, vous pouvez nous dire pourquoi ce morceau-là en particulier ? En plus, ce sont celles où il chante par-dessus.
Oui, ou même il parle. Il écrit, ça a été après, dans les années 40-50... Il y a eu beaucoup de problèmes raciaux, notamment dans les États du Sud.
De ségrégation, oui.
Voilà, de ségrégation. Et un sénateur qui s'appelait James Faubus a émis des lois contre lesquelles, évidemment, tout le peuple noir s'est insurgé. Et le morceau de Charlie Mingus, Fables of Faubus, est une diatribe musicale contre ça, contre l'exclusion.
Sortir des enfants d'une école parce que justement il y avait des enfants noirs et donc ils voulaient absolument
les
séparer.
Oui, ils voulaient absolument les séparer.
Et ça fait partie de votre patrimoine musical et donc aussi que vous transportez avec vous, le Timmy
oui.
Tian.
Don't let them conquer us, oh Lord. No more swastikas. Yo.
Extrait de l'album Charles Mingus Presents Charles Mingus avec ses Original Fables of Faubus, avec Ted Curson à la trompette, Eric Dolphy au saxophone et à la clarinette basse, et Charles Mingus à la contrebasse et Danny Richmond à la batterie. Et vous le disiez très justement, Claude Chamichian, on a l'impression que c'est un orchestre au plus complet.
Oui, c'est incroyable cette plénitude. D'abord, la musique de Mingus est tout à fait orchestrale. C'est quelqu'un qui a eu, d'ailleurs, il faut pas oublier qu'il a commencé par être violoncelliste, qu'il avait l'envie d'être un musicien classique et que la réalité sociale et raciale de l'époque ne lui a pas permis de faire ça. Et tout dans sa musique, vraiment, ce qu'il y a de génial, au-delà des magnifiques musiciens qu'il a révélés, je trouve que chez Mingus, le réel soliste, constamment, c'est l'orchestre lui-même. Et c'est ça qui est fantastique, parce que c'est un tout. C'est un tout qui englobe toute sa réalité musicale, tout son imaginaire et tout ce qu'il veut dire profondément ancré dans sa réalité sociale de l'époque.
Avec la place de la contrebasse un peu particulière, puisque c'est un orchestre à part entière, vous le disiez très justement, oui. Mais justement à ce moment-là, la contrebasse prend plus une importance plus grande.
Oui, c'est l'époque où quelques contrebassistes ouvrent des chemins. Vous avez en même temps Scott LaFaro avec Bill Evans. Il y a eu peine 15 ou 20 ans avant Jimmy Blanton avec Duke Ellington. Il y a des gens absolument fantastiques qui ouvrent des voies. Et la particularité de Mingus, c'est d'être non seulement un extraordinaire contrebassiste, qu'on oublie souvent de dire, mais un compositeur hors du commun.
Alors vous, Claude Chemichon, à quel moment avez-vous commencé la contrebasse ? C'est pas un instrument qu'on commence jeune, c'est trop grand pour pouvoir le commencer jeune.
Aujourd'hui, on peut. Hein, ouais. Il existe des classes de mini-contrebasse qui ont des résultats merveilleux d'ailleurs. Hein. Non, à mon époque, en tout cas, quand j'étais jeune, car ça remonte à quelques temps. oui, on commençait pas la basse avant 15, 16, 17 ans. Mais en fin de compte, il a fallu que j'attende d'avoir une sorte de nécessité de pratiquer la musique. J'ai toujours aimé la musique, j'étais un adolescent qui allait...
Votre père était pianiste
Il était pianiste, il a même été élève d'Alfred Cortot à l'époque, mais bon, il a pas pu en faire une carrière, c'était un autre contexte, et mon grand-père est quelqu'un qui ne lui a pas permis de le faire. Il a fallu d'ailleurs moi-même que je rue dans les brancards pour pouvoir faire de la musique. Passons. J'en suis très heureux. Il en a été fier d'ailleurs à la fin de sa vie. Et pourquoi la basse ? Parce que j'ai eu un choc. De 15 à 20 ans, je courais tous les concerts, mais je ne jouais pas. Et un jour,
Orléans... Vous alliez quand même au concert.
Ah, j'étais fou de musique, mais j'avais pas la nécessité. Et ça s'est révélé en passant chez un luthier qui avait ouvert un atelier dans la ville où j'habitais. C'était à Orléans à l'époque. Et je passe dans la rue, je vois une contrebasse dans la vitrine. Et j'ai eu... Mais oui, je sais que ça paraît incroyable.
Juste en la voyant.
En la voyant, j'ai eu une sorte de coup de foudre incroyable. Et il y a des fois, vous savez... Une vie peut changer en un millième de seconde, c'est ce qui m'est arrivé.
Et donc vous êtes entré dans la boutique, vous avez demandé à l'essayer ?
Je savais pas jouer, oui. Donc j'ai demandé le prix. Je me souviens, elle valait 3000 francs, je suis sorti de la boutique. Une heure après, j'avais trouvé un boulot qui était payé 100 francs par jour et j'ai travaillé 30 jours. Le 31e jour, je me souviens, le patron voulait m'engager, mais j'ai dit non.
Et vous avez pris le risque de l'acheter sans savoir en jouer ?
Absolument, oui.
Et vous savez ce qui vous a, maintenant à posteriori, vous savez ce qui vous a plu ? Quel a été ce coup de foudre ? Vous pouvez l'expliquer ?
Je pense pas qu'on puisse parler d'un plaisir. Ça a été quelque chose où j'ai cru, j'ai ressenti une sorte d'énergie. Des fois, on se sent traversé par une énergie qui ne vous appartient pas. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai reconnu ça en voyant cet instrument. Ça a tout déterminé.
Alors, on va écouter un autre contrebassiste qui a compté pour vous. On en parlera juste après l'avoir entendu. Charlie Haddon, avec son Liberation Music Orchestra. Là, pour le coup, c'est un véritable orchestre. Et c'est cet album qui s'est inspiré des chants de la guerre civile espagnole. Et on va écouter l'introduction qui, déjà, est très allante.
Thank you.
Song of the United Front, introduction donc à cet orchestre Liberation Music Orchestra de Charlie Haden, enregistré en 1969. Charlie Haden, que vous avez côtoyé, Claude Michon, et qui a été, je crois, important dans votre... dans votre vie musicale, dans votre parcours.
Oui, il a été très important. Je l'ai rencontré, j'étais jeune musicien, je sortais du conservatoire à Avignon et j'ai participé à un stage qu'organisait l'AJMI, merveilleux club, qui existe toujours à Avignon et qui fait toujours un travail fantastique pour cette musique. Et je l'ai rencontré un stage à Bolène, il y avait là mon ami Rémi Charmasson, et puis qui jouait la guitare et tous les autres étaient des contrebassistes. Et ça s'est tellement bien passé avec lui. On est resté en contact. Et par Daniel Richard, qui à l'époque travaillait à Polygram, je l'ai revu parce qu'il y avait déjà des problèmes de transport de contrebasse. Je ne vais pas plus loin dans les détails.
Mais c'est vrai que c'est un gros instrument. Hein.
Oui, puis ça se durcit de plus en plus, les manières de le transporter. Enfin bref, ça c'est autre chose. Bref, Charlie avait acheté une contrebasse qu'il laissait précisément à Polygram à Paris. Et Daniel m'avait demandé, et Charlie aussi, si je pouvais m'en occuper, faire les réglages, l'entretenir. Et je l'avais fait, et surtout, la première fois que j'avais rencontré Charlie, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais il faudrait que tu ailles rencontrer un luthier fantastique, quelqu'un qui existe toujours et qui fait des contrebasses merveilleuses, qui s'appelle Jean Auray, qui est à Villefranche-sur-Saône.
Qui est connu internationalement pour son travail.
Oui, c'est un immense et magnifique luthier. Et j'ai dit à Charlie, tu aimes ces réglages. À l'époque, j'avais aussi une contrebasse qu'il appréciait, qu'il aimait bien jouer. Je lui ai dit, ces deux instruments sont réglés par Jean. Je t'engage à aller le voir, vas-y. Je pense que tu ne regretteras pas le voyage. Il l'a fait et non seulement ça s'est très bien passé avec eux, mais la dernière contrebasse que Charlie a achetée et qui a été faite absolument sur mesure pour lui, c'est Jean qui la lui a fait.
Et alors vous, musicalement, que retenez-vous de ce formidable contrebassiste ?
Le son, d'abord la personne humaine, un vrai rassembleur, comme souvent sont les contrebassistes, mais lui, il rassemble au-delà de la musique. Quelqu'un d'absolument investi dans son époque, parce qu'il profite de ça, c'est pas évident de faire un orchestre comme ce qu'on vient d'entendre dans les États-Unis de ces années-là. Et puis, pour moi, la virtuosité à l'état pur, c'est-à-dire celle qui ne se voit pas, celui qui sait tout dire en trois notes, celui qui, j'ai beau l'écouter depuis des années et des années, je ne peux rien enlever à ce qu'il a fait, c'est l'essentiel. Je trouve que c'est une quête de perfection absolument réussie.
Vous avez dit classique ? Elsa Boublil sur France Inter.
Claude Chemichian, alors apparemment c'est en jouant au tout début hein, l'une de vos compositions, enfin mélodies, que votre professeur André Jaume, je crois, oui, vous a dit « Ah bah, ça se voit que tu es arménien toi ». Et à ce moment-là, vous n'aviez pas ou jamais entendu de la musique arménienne folklorique ou très peu ?
Quasiment pas. Mon grand-père est parti, je ne sais même pas quand, entre 1915 et 1920,
après le
début du génocide. Ces choses-là ne se disaient pas. Donc j'en ai jamais rien su. Et en même temps, comme souvent les populations immigrées, c'est soit le retrait sur soi-même, soit l'intégration maximum. Et là, ça a été le cas. On a des prénoms français. Claude Chemichian, c'est aussi incongru que Ovnatan Durand. Ça sonne comme ça là-bas. Hein. Et en même temps, il y avait quelques critères et des piliers incontournables, comme il fallait se marier entre Arméniens. Or, mon père a épousé une Française et ça provoquait un schisme, ce qui fait que j'étais élevé dans l'ignorance totale de cette culture. Et c'est longtemps après, au Conservatoire d'Avignon, avec André Jaume, avec qui j'ai commencé réellement à jouer, qui nous encourageait, c'était un conservatoire magnifique, il y avait Bruno Chevillon, Guillaume Orti, Gilles Coronado, Stéphane Oliva, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs, des gens qu'on connaît aujourd'hui. Et nous encourager à écrire, même quoi que ce soit, mais tout de suite écrire. Et bon, donc je me suis lancé, j'ai écrit voilà, des premières mélodies. Quand il les a vues, il m'a dit exactement ce que vous venez de dire. J'ai découvert après coup qu'il y avait effectivement une couleur, quelque chose.
Alors on va écouter l'hymne à l'amitié de Gagik Mouradian, l'ensemble, oui, Gagik Mouradian, avec qui vous avez joué. Oui. Et qui, là, est une musique arménienne. Ça va nous le mettre un peu dans l'oreille.
Thank you.
L'ensemble Gagik Mouradian, hymne à l'amitié pour parler de vos origines, Claude Chamichian, Gagik Mouradian avec lequel vous avez joué, hein, il joue du kamanché, on dit.
Kamanché. Ouais.
Et qui est une vielle. Hein,
Oui, une sorte de vielle rudimentaire, mais magnifique.
Et alors, je voulais parler avec vous justement de cet album Trace que vous avez réalisé, qui est votre dernier album, qui d'ailleurs sera célébré au sud de l'Ermitage à Paris dans le 20e, le 13, hein,
13, le 13 avril,
pour la sortie. Ouais. Donc, et dans ce disque, vous êtes employé, là, clairement, à aller là, vers l'interdit presque, puisque c'était un silence.
Je ne sais pas si c'est l'interdit, en tout cas, c'est oui, de tous les projets que j'ai faits, c'est celui qui revendique le plus, on va dire, revendiqué, non, qui évoque le plus ses origines. Pourquoi ? Parce que c'était l'an dernier le centenaire des événements de 1915. Au début, d'ailleurs, j'avais pas tellement l'intention de faire quelque chose par rapport à ça, parce que je ne voulais pas, je n'aime pas la mémoire quand elle débouche sur quelque chose de morbide. Il est important de se souvenir, c'est même fondamental, mais à condition que ça débouche sur quelque chose de vivant, quelque chose qui fasse qu'on aille ailleurs. Et puis tout d'un coup, par l'entremise des éditions Parenthèses à Marseille, j'ai découvert le livre de Krikor Beledian, qui s'appelle Seuil, qui est une grande saga, c'était le premier livre, où dans les premières pages, vous avez le personnage qui, en exhumant quelques vieilles photos d'un grenier, devient une sorte de témoin d'une mémoire enfouie. Et ça a fait tilt avec moi, et j'ai eu envie de faire des photos musicales qui puissent exhumer ben, voilà, ce qui ne s'est jamais dit, et ce qui témoigne quand même qu'une vie continue, puisque ben, mon grand-père est né à Istanbul, mon père est né à Paris, moi je suis là, et quelque chose toujours survit.
Et vous vous sentez un peu arménien, si on peut dire ça comme ça ? Ou en tout cas, vous sentez en vous cette trace, justement ?
Voilà, exactement, je sens ça, parce que je ne sens pas du tout nationalement arménien, j'ai pas grandi là-bas, je suis pas né à Yerevan. Par contre, oui, il y a quelque chose de l'ordre de la couleur, de quelque chose qui est fondamental pour moi dans l'imaginaire et la culture de tout un chacun. On vient d'une culture. Est-ce qu'on vient d'un pays ? Ça, c'est, je ne sais pas.
Alors voici le premier titre de cet album qui s'écoute en fait tout du long. Ça s'appelle Poussière d'Anatolie. Ouais. Donc on commence la trace avec ce magnifique sextet composé de Géraldine Keller à la voix, Daniel Erdmann au saxophone ténor et soprane, François Corneloup au saxophone baryton et soprane, Philippe Deschepper à la guitare, Christophe Marguet à la batterie aux percussions et vous, Claude Chamichian, à la contrebasse. Thank you.
vent, des femmes sur les chemins, des hommes, allez, allez, oust, des hommes dont le nombre va diminuant, des petits vols et le même souci des mères pour protéger la fille, allez, allez, une histoire sans aucune nouveauté, toutes les femmes se ressemblent dans une véritable.
Poussière d'Anatolie, extrait de l'album du Claude Chamichian Sextet, Trace, qui sort chez au label Émouvance. Et donc, pour ceux qui seraient intéressés, vous faites un concert au studio de l'Ermitage le 13 avril prochain à 20h30 à Paris dans le 20e. Et ça nous permet aussi de parler de ce texte qu'on entend. Mmh. Qu'est-ce que raconte ce texte ?
Ce texte raconte, en fin de compte, une histoire mi-imaginaire, mi-onirique d'un personnage qui exude trois photos et qui, dans ces trois photos, trouve la trace de trois personnes, trois femmes, qui sont une sorte, de par leur vie et leur parcours, d'histoire de tout ce qui s'est passé, en gros, plus un petit peu avant et un petit peu après 1915. C'est donc l'histoire aussi du déplacement des populations, l'histoire de l'éclatement des familles, l'histoire de toute population qui subit des événements aussi tragiques qu'un génocide.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Vous parlez d'Exode, Claude Chamichian, et justement, parmi vos très beaux projets récents, il y a celui avec le Clarinettistium, ce silence de l'Exode, et qui me faisait me demander qu'est-ce qui vous a mené si naturellement vers toutes ces questions, vers cette façon aussi d'interpréter la contrebasse dans toute sa dimension, y compris l'archet. Ça date depuis le départ, ça?
Oui, en ce qui concerne Guillaume, j'ai eu la chance d'être sollicité par lui. Mmh. Et ça, c'est fantastique. C'est d'ailleurs, je touche du bois, ce qui m'arrive assez souvent d'avoir la chance d'être sollicité par des gens fantastiques, parce que générateur d'imaginaires incroyables et d'histoires tellement fantastiques à partager. Par rapport à ce que vous venez d'avoir la gentillesse de dire sur la contrebasse, oui, dès le départ, ça m'a intéressé. Après, il faut grandir avec son instrument, grandir soi-même, devenir une personne humaine suffisamment intéressante pour avoir un imaginaire qui puisse lui-même devenir assez intéressant, et ensuite travailler de manière à pouvoir le sortir, en ce qui me concerne, au travers de la contrebasse.
Et votre son de la contrebasse qui est... un peu éraillé, on peut dire ça comme ça ?
Si vous voulez, c'est tout à fait possible par rapport surtout à l'archet, à certaines manières de jouer que je peux avoir sur des choses un petit peu distendues, mais c'est surtout... il arrive des moments, je ne pourrais même plus vous dire comment je travaille le son. J'ai beaucoup travaillé avec une idée du son. Et puis quelque chose est sorti, et dans tout ce qui sort, c'est comme dans l'écriture musicale. Vous avez ce qui est écrit, et la réelle musique, c'est entre tout ce qui est écrit.
Et quand vous avez acheté cette contrebasse, alors ça s'est passé comment? Parce qu'on ne sait pas.
Ça a été tragique au début, parce que j'ai acheté cette basse, je suis revenu chez moi, j'ai mis les mains dessus, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est incroyable. Et puis un mois après, un club s'ouvrait à Orléans, qui existe toujours, qui s'appelle le Caveau des Trois Maris. Et j'y suis descendu avec l'inconscience totale des débutants. Et il se trouve qu'à cette époque, Benny, on jouait beaucoup et il y avait très peu de contrebassistes. Donc j'ai commencé en apprenant sur le tas avec des gens qui quasiment tous m'ont aidé et je les en remercie beaucoup.
On va vous écouter avec Guillaume dans cette quatrième partie du Silence de l'Exode qui, comme votre disque Trace, s'écoute du début à la fin. Alors, un morceau choisi. Extrait du Silence de l'Exode de Guillaume, avec vous notamment, Claude Chemichian, et cette recherche donc sur des traces qui sont celles que vous recherchez, qui s'entrecroisent presque avec les musiciens que vous avez croisés sur votre chemin. Aussi, on peut dire les choses comme ça,
oui.
Claude Chemichian.
Oui, oui.
L'évolution que vous avez connue, qui est une évolution presque, est-ce qu'on pourrait dire, d'une forme de free jazz vers des choses plus mélodiques. C'est un chemin presque à l'envers, non ? Je sais pas.
C'est en fin de compte, même quand je faisais du free jazz, c'était avec des matériaux autres que des notes, on va dire, plus conventionnelles. Mais il y avait déjà un souci et de la forme et de la composition et de la mélodie, en fin de compte. Même quand je participais à des groupes ou des recherches musicales qui étaient beaucoup plus basées sur le matériau sonore qu'autre chose, ce qui m'intéressait, c'est de toute façon de l'articuler d'une certaine façon avec un rythme quel qu'il soit. Et avec une force d'expression qui rejoint ce qu'une mélodie peut donner. Moi, et puis ça existe dans toutes les musiques. Quand j'écoute Les Nuits de Xenakis, les chants de Félix Ibarrondo, quand j'écoute Nusrat Fateh Ali Khan, quand j'écoute Agourettas ou des gens comme ça, je vois pas où il y a quelque chose de différent. L'expression, oui, est différente, mais l'intensité et ce qu'on dit et la manière de prendre à bras le corps une expression profondément humaine et qui vient d'un imaginaire qui nous est en fin de compte tous commun. La seule chose par rapport à quelqu'un comme moi et quelqu'un d'autre, c'est que j'arrive à vivre de ce que je fais et j'ai décidé d'en faire un métier. Mais je pense que le son est quelque chose qui vient de tellement avant le langage et qui remonte à l'aube de l'humanité que personne sur cette planète ne peut en être indifférent.
Vous racontiez quelque chose de très beau, je pense, dans le livret qui accompagne votre disque. En tout cas, c'est un document qui m'est parvenu en disant que le jazz était la musique des esclaves noirs américains et que finalement, le sens qu'il avait ici pour vous aujourd'hui était presque le même alors qu'il se passait ailleurs.
Oui, alors sans rentrer non plus dans des lieux communs, parce qu'hélas ça a été assez galvaudé. Oui, c'est une musique qui a pendant longtemps été l'expression d'une résistance et de ce qui a survécu par-delà une oppression. Et en ce sens-là, évidemment à mon modeste niveau, Trace et d'autres gens qui travaillent par rapport, au fait que la mémoire puisse générer quelque chose de vivant, ben il y a quelque chose, oui, qui trouve. Mais quand j'entends Théodorakis en Grèce ou des gens comme ça, ils ont fait ça. C'est une manière, au-delà de la résistance qui est le premier niveau, c'est surtout une manière de témoigner de quelque chose qui survit et qui va continuer à survivre.
Alors on va écouter un autre titre de votre album Trace avec votre sextette Claude Chamichian. Il s'agit du titre Antica avec Géraldine Keller qui commence par une voix improvisée, soufflée ou sans parole. Vous pouvez expliquer ce titre-là, Antica ?
Antica, c'est une des trois femmes du livre de Krikor Beledian, ouais. Et l'une de ces trois personnes qui, au travers de leur destin, définissent toutes, symboliquement, toute l'histoire du peuple arménien qui a subi le génocide.
Antica, extrait de l'album Trace de Claude Chamichian Sextet, avec la très belle voix de Géraldine Keller, très originale, Daniel Erdmann, François Corneloup au saxophone, Philippe Deschepper à la guitare, Christophe Marguet à la batterie aux percussions et vous, Claude Chamichian. Une très belle façon de rassembler des musiciens, eux aussi, qui viennent d'horizons différents et qui ont chacun une très grande personnalité.
Oui, absolument. En plus, c'est quelque chose d'assez constant dans cette musique. Quand on n'écrit pas pour des instruments, on écrit pour des gens. En gros, le casting est le premier acte de composition. Et c'est absolument déterminant pour tous les projets que moi et les gens qui sont un peu des musiciens comme moi faisons. Je pense d'ailleurs que c'est pas notre seul apanage, d'autres gens font comme ça, mais c'est sûr que pour nous, la composante humaine est plus qu'importante.
Vous serez donc en concert le 13 avril au studio de l'Ermitage à Paris dans le 20e à 20h. Votre disque sort sur le label Émouvance, il s'appelle donc Trace. Je vais vous demander si par rapport à cette nécessité là, qui c'est ce coup de foudre et puis cette façon que vous avez eu d'imposer à vos parents de devenir musicien, vous n'avez jamais regretté, vous avez toujours su que c'était ça et que ça pouvait pas être autrement?
Toujours, j'ai jamais regretté.
C'est comme ça.
C'est comme ça, c'est la vie et j'ai la chance de vivre en faisant quelque chose que j'aime. Je pense qu'aujourd'hui, plein de gens qui nous écoutent seraient d'accord pour dire que c'est merveilleux.
On n'a pas mentionné le fait que vous avez monté ce label Émouvance sur lequel sort votre disque et qui montre à quel point ça reste artisanal et à la fois possible.
C'est absolument.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
On va finir, Claude Chamichian, puisque j'ai vu que vous étiez très ouvert sur la contrebasse et les contrebassistes d'aujourd'hui, d'hier, mais également d'aujourd'hui, c'est vrai. C'est une grande qualité que vous avez. Je ne sais pas si vous connaissez le contrebassiste Omer Avital, sans doute.
Oh, bien sûr.
Contrebassiste israélien qui a réussi à monter un quintet assez original où il arrive à mélanger à la fois la musique de ses origines, yéménite notamment, et marocaine, et israélienne, avec le jazz, dans son dernier album qui s'appelle Aboudboul Music. Il aime bien s'amuser du fait aussi qu'il a souffert d'une certaine forme de racisme au sein de son propre pays, de par ses origines. Eh bien, il propose une nouvelle chanson yéménite, New Yéménite Song, que je vous propose dans quelques instants. Simplement vous signaler aussi, si vous êtes libre lundi, qu'il sera en concert au New Morning à Paris, et qu'en général, quand on va voir Omer Avital, on danse. Je crois qu'avec vous aussi, ça peut arriver.
Ça peut arriver tout à fait, oui.
En tout cas, sur cette chanson New Yéménite Song, préparez-vous à danser chez vous, dans votre voiture. Romain Ravital, extrait de son album Aboudboul Music, qui est sorti chez Jazz Village, et Romain Ravital, donc, qui sera en concert New Morning à Paris lundi à 20h30. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, mais aussi d'aller voir Claude Chamichian, puisque vous serez en concert le 13 avril au studio de l'Ermitage, une autre salle fameuse à Paris dans le 20e, pour votre sextet Trace, pour la sortie de l'album qui s'annonce un vrai périple dans les traces arméniennes qui sont les vôtres. Merci beaucoup d'être venu partager cette heure avec nous.
Merci à vous.
Et puis je vous souhaite beaucoup de belles choses encore, puisque on est de plus en au plus près de peut-être de ce qui fait votre ADN musical.
Merci beaucoup.
Merci aussi à Marie-Annick Crimbaud qui a réalisé cette émission. Camille Poux, Jalaguier et Claire Destacan. À la technique aujourd'hui, c'était Lucas Vaillant. Alors, je vous signale que vous pouvez réécouter l'émission ou la podcaster sur le site de franceinter.fr. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi retrouver une très jolie photo de Claude Chamichian et moi sur la page Facebook de Vous avez dit classique. Et puis, que dire d'autre? Lundi prochain, on reçoit le grand bassiste Marcus Miller, qui viendra nous parler de ses goûts classiques et aussi de Miles Davis. Voilà, on aura cette star avec nous quand même.